VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
18h30 en temps universel, le monde aujourd'hui, en direct de Washington, au micro d'Ilidico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce jeudi 20 juillet, au Sénégal, l'Assemblée nationale vote pour amender la Constitution. C'est la première étape vers l'amnistie des opposants Khalifa Sall et Karim Wad. En RDC, 9 morts dans une explosion accidentelle. Au Kenya, les partisans de l'opposition à nouveau dans la rue. Au Soudan, de nouveaux bombardements à Khartoum et à El Obeid. Ne manquez pas notre rubrique sport et la Minute Écho. Tout d'abord, le journal. Au Sénégal, l'Assemblée nationale vote une loi portant modification de la Constitution et une autre portant modification du Code de procédure pénale. Des changements issus des accords du dialogue national. Plus de détails avec notre correspondant Seydina Abagay.
Il n'aura fallu attendre que quelques semaines pour voir les premiers points d'accord du dialogue national être soumis aux députés. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale vote une loi portant révision de la Constitution, plus particulièrement l'aspect concernant le parrainage à la présidentielle qui devient optionnel. En premier lieu, le parrainage citoyen sera allégé et l'option va revenir au candidat de choisir entre ce parrainage citoyen, un parrainage de 0,8% des députés du Parlement ou 20% des chefs d'exécutifs locaux. L'autre loi concerne une modification du Code de procédure pénale. Il s'agit de la suppression de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, CREI, qui devrait être remplacée par un pôle judiciaire financier. Ces deux actes que pose le Parlement aujourd'hui sont les premiers pas vers la réhabilitation de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et de Karim Wad, fils de l'ancien président Abdoulaye Wad, qui avait été condamné par la CRI. Après ces deux lois votées aujourd'hui, tous les regards se tournent désormais vers le vote du projet de loi portant modification du code électoral. Un vote qui devrait permettre à Karim Wad et Khalifa Sall de retrouver définitivement leur éligibilité et d'être en selle pour la présidentielle de février 2024. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Les autorités sénégalaises ont annoncé aujourd'hui qu'au moins 13 migrants originaires des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes marocaines la semaine dernière. La route migratoire des îles Canaries, porte d'entrée vers l'Europe, connaît ces dernières semaines un regain d'activité migratoire. Nous avons dénombré 13 Rufiscois décédés, a déclaré Oumar Cissé, maire de Rufisque, une ville proche de Dakar. Le ministre malien de la Défense a assuré Berlin du soutien de la junte pour un retrait ordonné de ses troupes de la mission de l'ONU MINUSMA d'ici fin 2023, selon une annonce du ministère de la Défense allemand. Le colonel Sadio Camara a donné cette assurance lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Boris Pistorius. Avec un millier de soldats environ, l'Allemagne est le plus important contributeur occidental à la MINUSMA. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 9 personnes ont été tuées hier soir dans l'explosion accidentelle d'un engin trouvé dans un champ par des villageois dans le nord Kivu. Le point avec Nanit Talani.
L'explosion de l'engin a également fait une quinzaine de blessés à Lubwe Sud, dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma. L'engin est qualifié de bombe, mais sa nature exacte n'est pas connue. On ne sait pas s'il s'agit d'une grenade, d'un obus, d'une roquette ou autre chose. Un civil a ramassé l'engin dans un champ et l'a remis à un milicien. Le milicien l'a manipulé et l'engin a explosé. Deux personnes qui se trouvaient à proximité sont mortes sur le coup, explique Justin Mwagaza, membre de la société civile. Certains blessés sont dans un état critique, précise un infirmier au centre de santé voisin de Kabizo. L'est de la RDC, plus particulièrement le territoire de Rutshuru au nord de Goma, est le théâtre depuis 2021 de violents affrontements entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise.
Au Kenya, les partisans de l'opposition sont descendus dans la rue pour une deuxième journée d'action contre la vie chère et les hausses d'impôts. Les activités ont repris peu à peu dans les grandes villes. Alexandrine Rolognon.
De nombreux magasins ont rouvert et la circulation a repris sur les principaux axes routiers. Les écoles fermées hier ont également rouvert à Nairobi, dans la ville portuaire de Mombasa et à Kisumu, la troisième ville du pays. La coalition Azimio a appelé les Kenyans à sortir de manière plus forte aujourd'hui, dans le cadre d'un mouvement de contestation lancé en mars et marqué depuis par des pillages et violences qui ont fait une vingtaine de morts. Hier, des échauffourées ont eu lieu entre groupes de manifestants et forces de l'ordre. Deux personnes ont été tuées à Kisumu, selon un responsable hospitalier. Plus de 300 personnes ont été arrêtées, selon le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki. Le gouvernement affirme que des taxes plus élevées sont nécessaires pour aider à rembourser la lourde dette, financer des initiatives de création d'emplois et un programme de logements sociaux.
Au centre du Nigeria, l'armée a envoyé des renforts pour apaiser les tensions. Au moins 300 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs ces trois derniers mois. L'armée a déplacé son quartier général de sa campagne militaire régionale Safe Haven de la ville de Jos, capitale de l'état du Plateau, vers le district de Mangou, l'un des plus touchés par les exactions. En Afrique du Sud, un corps a été retrouvé jeudi matin dans le centre de Johannesburg après une mystérieuse explosion qui a fendu la chaussée, soulevant piétons et voitures, selon le porte-parole des services d'urgence. Robert Mulodzit a précisé à la mi-journée que le nombre de blessés est passé à 48. Un incendie ravage depuis deux jours des forêts dans le nord-ouest de la Tunisie, provoquant la fermeture temporaire d'un point de passage avec l'Algérie. Quelques 470 hectares ont brûlé alors que les pompiers font toujours face à l'incendie avec l'aide de l'armée. Une température maximale de 47 degrés Celsius est enregistrée dans le sud tunisien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Soudan, des bombardements et des tirs d'artillerie ont secoué Khartoum et El Obeid à 350 km au sud de la capitale. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Des tirs d'artillerie visent des bases des forces de soutien rapide, a indiqué un habitant d'El Obeid. L'armée de l'air bombarde et les paramilitaires répondent par des tirs de batterie antiaérienne, a ajouté un autre. Des habitants du sud de Khartoum ont fait état de leur côté de trois raids aériens tôt le matin. Hier, l'armée a accusé les forces de soutien rapide d'avoir bombardé au drone un quartier résidentiel dans la capitale, faisant 14 morts et 15 blessés civils. Mardi, le général Bourane est apparu dans une rare vidéo peu après un enregistrement sonore de son rival, le général Mohamed Abdan Daglo. L'immense complexe au cœur de Khartoum est le théâtre d'affrontements et aucun camp ne revendique son contrôle total. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Abdan Daglo a fait plus de 3000 morts et plus de 3,3 millions de déplacés et réfugiés.
Le sud de l'Ukraine a vécu une nouvelle nuit de bombardements russes. Au moins deux civils ont été tués à Odessa et Mykolaiv. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
À Odessa, une frappe a détruit un bâtiment administratif dans le centre et endommagé plusieurs immeubles résidentiels. Selon le gouverneur de la région Oleg Kiper à Mykolaiv, au moins cinq immeubles résidentiels ont été endommagés, d'après le maire. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que Moscou a lancé 38 missiles et drones sur les deux villes. Une nuit d'enfer pour notre peuple, a réagi le patron du service ukrainien des situations d'urgence, Sergei Krouk. Ces missiles rarement tirés par Moscou ont déjà été utilisés dans la nuit de mardi à mercredi. Cette attaque a ciblé les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires d'Odessa et de Tchornomorph, détruisant 60 000 tonnes de céréales. Kiev accuse Moscou de viser ses infrastructures portuaires pour empêcher toute reprise des exportations ukrainiennes. L'armée russe dit avoir détruit des sites de production et de stockage de drones navals à Odessa et des dépôts de munitions et de carburant à Mykolaïv. C'est la troisième nuit consécutive d'attaque depuis l'expiration lundi de l'accord céréalier vital pour l'alimentation mondiale.
Toujours en rapport avec la Russie, le président russe Vladimir Poutine a décidé de ne pas venir au sommet des BRICS fin août en Afrique du Sud pour ne pas compromettre cet événement. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un diplomate sud-africain. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Claire Morin-Gibourg. Au Burkina Faso, les nouvelles mesures fiscales pour contribuer à l'effort de guerre entrent en vigueur ce jeudi. Les Burkinabés devront débourser des frais supplémentaires sur les services de téléphonie et les achats de produits de télécommunications, des abonnements télé ou des cessions de terrain hors lotissement. Le ministre de l'économie, Aboubacar Nakanabo, a exhorté les entreprises à reverser intégralement les montants qui seront prélevés pour le besoin de la lutte contre le terrorisme. L'Afrique doit mobiliser plus de 4 milliards de dollars par an d'investissements supplémentaires dans la cybersécurité pour faire face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses, variées et dangereuses, selon un rapport du cabinet américain de conseil en stratégie, Kearney. L'Afrique enregistre chaque année des pertes directes estimées à 3,5 milliards de dollars à cause des cyberattaques. Au Cameroun, la cérémonie de mise en eau du barrage de Naktigal a eu lieu près de Batchanga, dans la région du centre. Cette centrale hydroélectrique devrait être opérationnelle en septembre 2024 et devrait être en mesure d'exporter 150 mégawatts vers le Tchad dès 2027, ce qui va doubler la quantité d'énergie électrique dans le pays. Place au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba, ravi de vous retrouver.
Bonsoir Dili et bonsoir à tous.
Victoire et record pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie en ouverture de la Coupe du Monde féminine ce jeudi.
Oui, le coup d'envoi de ce 9e mondial féminin a été donné avec les victoires des deux pays hôtes. La Nouvelle-Zélande a signé le premier succès de son histoire dans un mondial contre la Norvège battu 1-0. Dans le second match, l'autre pays co-organisateur, l'Australie, a parfaitement lancé sa compétition en venant à bout de l'Irlande sur le même score devant près de 76 000 personnes, une affluence historique dans le pays pour du foot féminin. La première nation africaine entre en lice demain vendredi à 2h30 du matin, temps universel. Il s'agit du Nigeria qui affronte le Canada. Pour rappel, 32 nations sont dans la course à la succession des États-Unis, champions en titre. La finale aura lieu le 20 août.
Victoire d'Arsenal sur les stars de la MLS.
Oui, les nouvelles recrues phares d'Arsenal, Declan Rice et Kai Havertz, ont fait des débuts remarqués lors du large succès des Londoniens 5-0 contre l'équipe All-Star de la Ligue américaine de football. C'est à l'occasion d'un match amical à Lodi Field à Washington DC. Rice est devenu le joueur britannique le plus cher de l'histoire lorsqu'Arsenal l'a acheté à West Ham pour 122,4 millions d'euros. L'entraîneur de l'équipe américaine Wayne Rooney a déclaré qu'il n'avait pas eu le temps de faire un travail tactique avec son équipe, composé de joueurs venant de toute la Ligue nord-américaine. Arsenal va se rendre dans le New Jersey pour affronter Manchester United, son rival en Première Ligue, samedi, avant d'aller défier le FC Barcelone mercredi à Los Angeles.
Et Yacouba, l'entraîneur de l'Inter Miami, envisage les débuts de Messi et Busquets demain vendredi?
Oui, l'Argentin Léo Messi et l'Espagnol Sergio Busquets, les récentes recrues stars de l'Inter Miami, pourraient faire leur grand début contre l'équipe mexicaine Cruz Azul. Selon l'entraîneur de la franchise nord-américaine, je n'exclus pas de les lancer dans le bain lors de ce tournoi réunissant des équipes américaines et mexicaines, a déclaré le technicien argentin Gerardo Tata Martino. Les deux anciens coéquipiers du Barça viennent de s'engager jusqu'en 2025 avec le club de la MLS. L'Inter Miami peine depuis plusieurs saisons en championnat où ses débuts sont décevants. Il reste sur 11 matchs sans victoire et a enregistré samedi dernier sa 14e défaite en 22 sorties cette saison.
Merci Yacouba.
Bye. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dili Diko, de retour avec vous. Passons à la tranche magazine. Au Tchad, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une visite de travail de 2 jours à N'Djamena. Facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour le processus de transition en cours au Tchad, M. Tshisekedi a rencontré les dirigeants de la transition, les opposants, les confessions religieuses et la société civile. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Moi qui ne suis pas non plus exempt de problèmes, comme vous le savez, mon pays est aussi victime d'agressions et de tentatives en tout genre de déstabilisation. Mais au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique, j'ai accepté cette mission avec honneur.
Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, facilitateur de la crise tchadienne. Il a abordé avec les acteurs et opposants de la transition des questions liées à la guerre au Soudan et son impact au Tchad, la demande du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine aux dirigeants de la transition de ne pas se présenter aux élections et l'enquête sur les événements du 20 octobre 2022 confiée à la CEAC. Selon lui, sa mission a été une réussite.
Je n'ai trouvé aucun Tchadien hostile à une avancée quelconque. Tous ceux que j'ai rencontrés ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. Je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution heureuse pour ce peuple.
Mais certains opposants tchadiens ont estimé que le Congolais Félix Tshisekedi est venu pour amuser la galerie puisqu'il ne veut pas entrer dans la profondeur du débat.
Il n'a pas cherché à savoir pourquoi nous ne voulons pas continuer à soutenir la transition. Il n'a pas voulu aborder cette question de la non-éligibilité des dirigeants et il n'a pas non plus accepté avec nous quelle pourra être la suite des événements.
Le professeur Avaksuma Djona, président du Parti Les Démocrates et membre du groupe de concertation des acteurs politiques, le GCAP, qui regroupe 15 partis politiques.
Tout ce que nous avons pu tirer comme conclusion, c'est que M. Tshisekedi est arrivé chez nous pour nous demander de réintégrer les rangs du pouvoir. Donc pour moi, il n'y a pas eu une quelconque valeur ajoutée. C'est vrai, parmi nous, il y a des gens qui sont intéressés, qui vont probablement réintégrer le CNT ou le gouvernement. Mais de notre côté, nous ne pensons pas que le moment est venu d'aller tête baissée comme ça pour suivre ou accepter ce qui est en train de se passer.
Abdourahmane Diasnaba est membre du cadre national de concertation des partis politiques et conseil à la primature, reconnaît lui aussi que l'application des acquis du dialogue national inclusif dans la deuxième phase de la transition pose problème.
Je sais que le gouvernement a fait des efforts, mais il faut qu'il en fasse davantage dans le sens de l'ouverture, dans le sens de l'inclusivité, dans le sens d'appliquer les résolutions et les recommandations du dialogue. Mais je pense que le rapport que le CAC va faire va peser sur la balance. Les choses sont exposées dans les médias, dans les réseaux sociaux, il n'y a rien à cacher.
La coalition Wakitama, quant à elle, attend toujours le rapport de la CAC sur les événements du 20 octobre et déplore qu'à cette date, aucun des auteurs des crimes de cette tuerie de masse n'a été identifié. Félix Tshisekedi entend, dans le cadre de son mandat, maintenir les contacts avec toutes les parties prenantes dans la perspective d'une transition inclusive, consensuelle et apaisée. André Kodmajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, les tueries continuent malgré l'état de siège dans la province depuis bientôt 2 ans. La semaine dernière, plus de 40 civils ont été tués en 3 jours près de Bunia, capitale provinciale. Un mois plus tôt, une cinquantaine de civils ont été égorgés dans un camp de déplacés à Lala. Eddy Sango a joint à Bunia le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Lobuya Nkashama.
Ce qui s'est passé exactement, c'est en fait, on dirait peut-être d'une façon un peu laconique, c'est un jeu finalement qui est devenu un jeu de ping-pong finalement. Parce que en fait, la vérité, nous étions en train d'organiser. Nous avons d'abord séparé des groupes armés et leur communauté. Et donc, parce que nous avions déjà terminé les dialogue avec les groupes intracommunautaires, nous sommes passés au dialogue avec les groupes armés. Malheureusement, il y a certains leaders de groupes armés qui n'étaient pas, ou certains leaders dans les groupes armés qui n'étaient pas contents. Et donc, ils ont organisé des attaques qui sont parties du site de Lala. Et malheureusement, les autres aussi ont répondu. Et donc, ce groupe armé là, c'est les Zahir qui a fait sa jeunesse dans le site des déplacés de Lala, qui a attaqué le Codeco, et malheureusement le Codeco a fait des représailles la nuit, et voilà, il y a eu tous ces morts-là, notamment 20 femmes, 10 enfants et 10 hommes.
C'était donc une représaille de Zahir aux attaques des Codeco?
Non, c'était une représaille de Codeco aux attaques de Zahir, c'est plutôt le contraire, c'est ça. Codeco a fait des représailles, des attaques de Zahir, qui partait du site de Lala, parce que cette jeunesse-là était dans le site de Lala, le site déplacé de Lala.
Il y a juste un mois, sur les sites de Lala, plus de 50 personnes ont été tuées, mais un mois plus tard, 40 personnes sont encore tuées. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les précautions n'avaient pas été prises pour éviter que ça se reproduise?
Non, il faut savoir que dans le cas d'espèces ici, je crois qu'il faut plus de l'anticipation. Pourquoi? Parce que les attaques se font la nuit, les attaques sont de nuit, et vous savez qu'il faut beaucoup d'un certain matériel pour, n'est-ce pas, opérer la nuit, et ça devient difficile. Dès que l'attaque est déjà amorcée, ça devient difficile que ce soit la MONUSCO qui n'a pas ce matériel, que ce soit aussi nos militaires qui n'ont pas ce matériel de vision de nuit, et voilà. Et donc, moi, je pense que c'est plus, il fallait anticiper. Mais malheureusement, comme il n'y a pas eu anticipation, dès que l'attaque a commencé, la nuit, ça devient très difficile de réagir.
2 ans depuis que l'état de siège a été institué, mais les attaques se poursuivent et se multiplient. D'ailleurs, l'ONU et les organisations humanitaires tirent les signaux d'alarme disant que ça se multiplie. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'état de siège n'a pas apporter des fruits attendus?
C'est plutôt un problème de communauté, un problème de manipulation, je veux dire. Vous savez, nous sommes ici dans ce qu'on appelle une guerre atypique et asymétrique. Donc, ceux qui attaquent viennent de la population civile et ceux qui réagissent viennent aussi de la population civile.
C'était le lieutenant général Johnny Lobuya Nkashama, gouverneur militaire de l'Ituri.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
En Afghanistan, les employés des salons de beauté de Kaboul sont descendus dans la rue pour protester contre un récent décret des talibans qui prévoit la fermeture de tous les salons de beauté dans moins d'un mois. Des milliers de femmes perdront leur emploi si la mesure est mise en application. Reportage Wahid Faizi, le récit est de Jean-Roger Bion.
Les forces de sécurité talibanes ont utilisé des canons à eau et tiré des coups de feu en l'air pour disperser des dizaines de femmes qui protestaient contre l'interdiction récente des salons de beauté. Les manifestantes ont scandé « Ne prenez pas nos emplois » et « Pain, emploi, liberté et justice », une manifestante s'explique.
Je fais partie des femmes qui ont participé à la manifestation d'aujourd'hui pour réclamer nos droits du travail et de l'éducation.
Les talibans affirment que les services offerts par ces salons sont interdits par l'islam, mais les salons de beauté pour femmes fonctionnent sans aucune restriction dans les pays musulmans. Les manifestantes, dont beaucoup ont choisi de ne pas révéler leur nom, affirment que la décision des talibans risque d'enfoncer davantage les gens dans la pauvreté. Une autre manifestante à Kaboul.
En effet, nous voulons savoir d'où vient l'ordre. Pourquoi privent-ils les gens de leurs moyens de subsistance? Pourquoi poussent-ils les gens dans la pauvreté? Si les parents n'ont pas de travail, comment pourraient-ils nourrir leurs enfants?
L'interdiction des salons de beauté est la dernière d'une série de restrictions imposées aux femmes afghanes. Les talibans ont déjà interdit l'accès des femmes à l'enseignement secondaire, à l'emploi et aux espaces publics. Annie Forsheimer, du Centre international d'études stratégiques.
Je pense que ce qui arrive aux femmes et aux filles est terrible. C'est une violation des droits de l'homme. C'est un crime contre l'humanité.
Les Nations Unies ont appelé les talibans à retirer cette interdiction qui, selon l'Organisation mondiale, aura un impact négatif sur l'économie et contredit le soutien déclaré à l'entrepreneuriat féminin. Athena Hachemi, propriétaire du salon Ena Beauty.
L'ensemble de la ville de Kaboul est confronté à un problème. Si les salons de beauté sont fermés, ces femmes ne pourront pas trouver d'emploi ailleurs pour avoir un revenu.
Selon une source à la Chambre de commerce et d'investissement d'Afghanistan, il existe plus de 3000 salons de beauté à Kaboul et environ 12 000 dans tout le pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine a été donné ce jeudi avec les victoires des deux pays hôtes. La Nouvelle-Zélande a signé le premier succès de son histoire dans un mondial contre la Norvège, battue 1-0. Dans le second match, l'autre pays co-organisateur, l'Australie, a lancé sa compétition en venant à bout de l'Irlande sur le même score. La première nation africaine en lice cette nuit face au Canada. Il s'agit du Nigeria. Suivons ce reportage de Timothy Obiezu, repris par Yakuba Ouedraogo.
C'est l'équipe africaine la plus expérimentée dans l'histoire de la Coupe du monde féminine. Le Nigeria a participé à toutes les éditions depuis le premier tournoi en 1991. Les Super Falcons, comme on les appelle, ont atteint deux fois les phases à élimination directe. Un quart de finale en 1999 reste la meilleure performance jamais réalisée par une équipe africaine. Cette tradition de foot féminin a suscité des vocations et continue de stimuler le rêve de jeunes filles dans un contexte social pas toujours favorable. Blessing Emmanuel a commencé à jouer au football à l'âge de 12 ans sur ce terrain d'un quartier d'Abuja. Sa famille s'y est d'abord opposée et a essayé de la forcer à arrêter.
Mon père disait, non, je ne pense pas que je veuille que ma fille soit au milieu de garçons. J'ai dû les convaincre.
Emmanuel a par la suite rejoint le Niger Rattles Football et a eu le privilège de participer avec l'équipe nationale nigériane des moins de 17 ans au mondial de sa catégorie l'année dernière en Inde. Elle va suivre de près les différentes prestations de ses aînés lors du mondial féminin. L'Afrique attend beaucoup des Super Falcons qui sont les plus titrés du continent avec 9 sacres sur 11. Cependant, leur domination continentale s'est effritée. Elles ont terminé à la quatrième place de la dernière CAN. L'une des causes reste la condition salariale pas toujours à la hauteur du succès. Les joueuses affirment qu'elles sont souvent mal rémunérées par rapport à leurs homologues masculins et réclament l'égalité des salaires. Bunmi Oladeji est une joueuse des Super Falcons.
En tant que fille, vos parents s'attendent à ce que vous travailliez, que vous vous mariez et que vous ayez des enfants. Mais moi, je suis passionnée de football. C'est là que je veux gagner de l'argent.
Les supporters craignent que ces différends ne sapent le moral des troupes lors du tournoi, mais la Fédération nigériane de football a promis de se pencher sur la question. L'entraîneur adjoint des Super Falcons, Sani Oudou, pense que la parité sera atteinte.
Ils veulent voir si ce que l'homme obtient est ce que la femme obtiendra aussi. Mais cela prendra du temps.
En mars, la FIFA a annoncé que chaque joueuse de la Coupe du monde féminine recevrait 30 000 dollars. Les joueuses de l'équipe gagnante recevront chacune jusqu'à 270 000 dollars. Le voyage en vaut donc la peine pour les Super Falcons. Le Nigeria est dans un groupe B difficile avec l'Australie, pays hôte, le Canada champion olympique et l'Irlande.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Josèle Morissin, Dilly Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée.
Au revoir.